chapitre 6, que on peut afficher, n'est-ce pas? C'est bon? Ok. Que ouais, nous allons lire tous ensemble, doucement. Hein. On y va? Bon, on y va. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Jusqu'ici notre lecture. Moïse, avant sa mort, monte les plaines de Moab, donc après 40 ans dans le désert. Et là, il arrive sur le mont Nebo. Je ne sais pas comment ça se prononce, Nebo ou Nebo. N-E-B-O. Parce qu'en coréen, on dit Nebo. Est-ce qu'on peut prononcer Nebo aussi? N-E-B-O. Bernadette. Ah, d'accord, ok. Tu as toujours dit Nebo. D'accord. Alors, pour cette prédication, je vais dire Nebo. Et donc, il est au sommet de Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fait voir dans tout le pays de Canaan. Là, il regarde tout le pays qu'il pourrait entrer. Alors, est-ce qu'on peut montrer la photo? Voilà, c'est une photo d'une sculpture d'un serpent d'airain qui est mentionné dans Nombre. Chapitre 21. Ça vous rappelle quelque chose, hein, cette histoire? Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vais vous rappeler cette histoire. Vous savez que l'Israël, lorsqu'ils sont dans le désert pour aller sur la terre promise, l'Israël se plaint souvent à Dieu. Et là, encore une fois, dans le chapitre 21, Nombre chapitre 21, l'Israël se plaint. Il se plaint auprès de Dieu et auprès de Moïse en disant que on n'a pas de pain, on n'a pas de boisson, etc., etc. Et là, Dieu en avait marre, leur envoie des serpents brûlants qui les mordent et il y a eu beaucoup de morts par la suite, par ces morsures. Alors, Moïse intercède pour sauver le peuple et Dieu répond ainsi: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Voilà un peu une belle histoire, n'est-ce pas? Et justement, à l'endroit où Moïse était présent pour regarder la terre promise, ben, ils ont construit cette symbole, cette sculpture, pour se rappeler de ce que le Seigneur a fait à travers Moïse. Deuxième photo. Ah oui, c'est ça. Cette serpent d'airain, enfin plutôt ce bâton avec le serpent d'airain, ressemble beaucoup à la croix, n'est-ce pas? Et vous savez que Jésus aussi a mentionné cet épisode. C'est dans Jean 3, verset 14, où Jésus a dit: comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, donc Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voilà, déjà, avant de mourir, il fait allusion de sa mort sur la croix. Et qu'il doit justement être crucifié, mourir pour sauver, pour expier tout le péché du monde entier, pour le salut de tous. Et ainsi, voilà, comme les gens avaient regardé ce serpent d'airain et qu'ils ont été sauvés, de même aujourd'hui, le Seigneur aimerait vraiment que le monde entier regarde la croix de Jésus pour que leurs péchés soient purifiés, pour que chacun soit justifié devant le Seigneur. Alors, on revient un petit peu à la vie de Moïse. Juste pour un rappel, Moïse a erré pendant 40 années avec le peuple de Dieu dans le désert. Et puis, pendant cette errance, le peuple se rebelle, même plusieurs fois. C'est pas une, deux, trois fois. Hein, le peuple rebelle, rien que dans les nombres, il y a une dizaine de fois où le peuple se rebelle. Donc si on regarde, parce que la Bible n'a pas tout décrit, tout ce qui s'est passé. Et si on peut imaginer toutes ces rébellions qu'ils ont pu faire, ça devait être vraiment nombreux. Et là, Moïse devait être un homme exceptionnel. C'est-à-dire, il était un homme patient. Il était un homme qui avait beaucoup d'amour pour le peuple. Et il intercédait beaucoup pour eux. Il arrive enfin donc à la vallée de Jéricho. Et l'Éternel dit à Moïse, « Voici la terre que j'avais juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. » Donc Moïse est vraiment excité, content de voir enfin ce pays où le peuple peut entrer. Mais, c'est ce que l'Éternel lui dit, « Mais toi, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. » Quelle tristesse. Mais Dieu l'amène sur cette montagne de Nebo pour qu'il voie de ses propres yeux cette terre promise. Et voilà, c'est une consolation que Dieu lui accorde un petit peu. L'image suivante. Voilà, c'est pour symbole de la médecine, hein, pour dire que c'est le serpent d'airain qui guérit, voilà, qui guérit les malades. La photo suivante, voilà, ça c'est un peu la peut-être le paysage que Moïse a pu voir sans traverser, sans entrer dans la terre promise. Il a pu voir comme ça, et puis il a dû se dire, ah enfin, mon peuple va entrer sur cette terre promise. Alléluia. Il a dû être heureux de voir cette terre enfin. Vous savez qu'il a pu rentrer, ils ont pu entrer en quelques semaines de marche, hein, mais bon, à cause de leur rébellion, ils ont dû errer pendant 40 ans. Voilà, et puis il écrit donc tout près de Nebo le livre de Deutéronome qui est un testament pour son peuple. Vous savez, avant de mourir, Moïse était un très grand homme et il voulait vraiment laisser un testament pour que son peuple, enfin le peuple de Dieu, soit obéissant à ses commandements. Et je ne sais pas si vous avez déjà écrit votre testament, non? Je ne pense pas, non? Alors, vous savez quoi? Je connaissais une dame qui avait à peu près peut-être 70 ans. Elle avait toujours elle avait déjà écrit son testament. Et puis dans son sac, il y avait toujours quelque chose en cas de mort. Hein, et qui avait laissé des écrits pour ses enfants, pour l'église, etc. etc. C'est incroyable. Elle était prête toujours à mourir et aller au-delà. Est-ce que nous sommes prêts vraiment aussi à aller au-delà et laisser peut-être laisser des écrits ou je sais pas pour que nos descendants puissent être encouragés par ce que nous laissons. En tout cas, Moïse n'a pas écrit ou laissé ses biens matériels. En général, on laisse nos matériels qui sont certifiés par le notaire pour être transmis à nos générations. C'est pas ça, c'est pas l'héritage de la terre, ce n'est pas l'argent qu'il veut laisser à son peuple, ce qu'il veut laisser, c'est la parole de Dieu. la parole de Dieu qui nous permet d'accéder au salut, à la vie éternelle. Et c'est ce qu'il veut vraiment laisser à son peuple. Si on regarde un petit peu le contenu du livre, voilà, après 40 ans de vie dans le désert, et puis après que la première génération soit morte, c'est-à-dire que vous savez qu'à cause de leur rébellion, ceux qui avaient plus de 20 ans sont morts dans le désert. Et donc là, ceux qui étaient prêts à entrer dans la terre promise, c'était ceux qui avaient, au moment de la sortie d'Égypte, moins de 20 ans. Et deux personnes de plus, c'est qui? Voilà, Caleb et Josué, deux personnes, deux espions qui ont été positifs après avoir vu la terre promise, quand ils ont rapporté au peuple d'Israël. Ce Moïse, donc, je me dis que pendant ces 40 années, il a eu une belle vie, puisque Dieu décrit comme l'homme le plus patient sur la terre, Moïse. Il est le premier à entrer aussi dans la tente de rencontre. On voit ça dans Lévite. Et puis, il a pu aussi discuter avec le Seigneur, face à face. Et encore, on lit dans la Bible, jusqu'à la mort, sa vue n'était point affaiblie. Hein, ceux qui portent maintenant les lunettes, hein, vous devez envier Moïse. Hein. Moi, quand j'enlève, je ne vois rien. Alors que je n'ai que 51 ans. Et lui, il avait 120 ans. Et 120 ans, il n'avait pas besoin de lunettes pour lire. Hein. Voilà. Donc, oui, il a eu une belle vie. Une belle vie avec le Seigneur, malgré les difficultés, il a eu une belle vie, on peut dire comme ça. Et imaginez un petit peu sa vie d'avant. Quel a été le moment le plus touchant pour sa vie, à votre avis? Quelques réponses, quelques propositions? Le moment où il a été vraiment le plus encouragé. On peut dire comme ça, hein? Pour moi, lorsqu'il était dans le mont Sinaï, quand il a rencontré le Seigneur, quand il a vu de vraiment comme ça, face à face, et il lui a laissé les 10 commandements par ses propres mains. Ça devait être vraiment incroyable. Et en fait, le 10 commandements est rappelé dans le chapitre 5. Dans Deutéronome 5, Moïse, avant de partir auprès du Seigneur, auprès de Dieu, il leur rappelle ces 10 commandements. Après avoir rappelé, donc, on arrive au chapitre 6 de Deutéronome 6, qui résume aussi un peu le thème de ce livre, au verset 1. Je vous lis. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Là, bientôt, vous allez prendre possession de ce pays. Et rappelez-vous de l'enseignement que je vous ai prescrit. Rappelez-vous et mettez en pratique ce que vous avez appris. C'est ça, en fait. Ça, c'est le résumé, le thème de tout le livre de Deutéronome. Et là, il est en train de dire, mais moi, je ne serai pas avec vous. Je ne pourrai pas être avec vous. Mais vous allez respecter ces commandements que Dieu vous a donnés. Et ainsi, tes jours, au verset 2, tes jours seront prolongés. Et au verset 3, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup. Voilà, il est en train de dire, tout ira bien si le Seigneur est avec vous. Tout ira bien si Dieu t'accompagne. Tout ira bien si vous êtes obéissant à la parole de Dieu. Ensuite, on arrive au verset 4 et 5, qui est un peu le résumé des 10 commandements. Est-ce que je sais que vous connaissez bien les 10 commandements, n'est-ce pas? Hein? C'est dans... Oui, vous pouvez voir aussi dans Deutéronome 5. En fait, il y a 4 premiers commandements concernent Dieu. Après, les 6 autres commandements concernent les hommes. les quatre premiers commandements, c'est d'abord le premier, c'est Dieu est un, Dieu est unique, Dieu est l'éternel. Deuxième commandement, il n'y a pas d'autre Dieu, c'est-à-dire, faut pas, Dieu est un Dieu jaloux, il ne faut pas croire à n'importe quoi. Pas d'idolâtrie, deuxième commandement. Troisième, tu ne prononceras pas le nom en vain, le nom de l'éternel. Quatrième commandement, respect du jour de sabbat. Il faut respecter le jour de sabbat. Tout ça, les quatre premiers commandements, concernent la relation verticale entre moi et Dieu. Et ensuite, à partir du sixième commandement, Dieu parle maintenant de la relation horizontale. Comment je dois me comporter? D'abord, honore ton père et ta mère. C'est incroyable. Le premier commandement que le Seigneur nous donne, c'est honore ton père et ta mère. En fait, en honorant nos pères et nos parents, on apprend aussi à honorer Dieu qu'on ne voit pas. Comment on peut honorer Dieu qu'on ne voit pas sans savoir honorer nos parents qu'on voit déjà? Enfin, voilà. Non, je ne vais pas faire l'analyse. Et donc, honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas l'adultère. Ensuite, tu ne déroberas pas. Et puis, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Hein, et ensuite, tu ne convoiteras pas. Ça fait 10 commandements. Et tout ça, si on résume, on peut résumer en deux versets. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est le seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta force. Voilà le résumé de chapitre 5. Vous savez, la prière, est-ce que tu peux remettre les versets de première image? Ça, c'est une prière que les Israélites prononcent encore aujourd'hui, matin et soir. Matin et soir, ils font la prière. Ils ont appris par cœur. Donc, si je lis en hébreu, c'est Shema Israël, Yehovah, donc Adonai. En général, ils ne prononcent pas l'Éternel, c'est plutôt Adonai. Parce que c'est un nom tellement saint, on ne peut pas prononcer. Mais si on prononce en hébreu, c'est Yehovah. Les gens en français, certains prononcent Jéhovah, mais ce n'est pas Jéhovah, c'est Yehovah. Elohim, Yehovah et Tad. Echad, qui veut dire un, unique, Dieu unique. Pour dire que ce schéma Israël, écoute Israël, est toujours récité, appris par cœur, par les Juifs encore aujourd'hui, jusqu'au verset 9. Vous pourriez vous dire, mais qu'est-ce que cela a à voir avec moi qui vis en ce moment au 21e siècle? Parce que ça, c'est vraiment dépassé. Hein, c'est ce que vous pourriez me dire. Et puis d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il y a eu tellement de pratiques comme les sacrifices, mais on ne le fait plus maintenant, puisque Jésus a tout porté sur lui, sur la croix. Alors est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que c'est toujours valable? Alors il y a certains versets qui sont toujours valables, puisque Jésus lui-même a rappelé de cet événement. Un jour, dans Marc chapitre 12, un scribe remarque que Jésus est un homme exceptionnel. Il vient lui dire, et maître, voilà, je vois que tu as vraiment la sagesse, mais j'ai vraiment encore une question à te poser. Quel est le premier de tous les commandements? Et là, il répond, voici le premier, écoute Israël. Donc c'est Shama Israël, Shema Israël. Le Seigneur notre Dieu est unique Seigneur. C'est exactement la même phrase que verset 4. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il y a la pensée qui est rajoutée dans la phrase de Jésus, et de toute ta force. Par rapport à Deutéronome, il y a la pensée qui est rajoutée. Et puis il rajoute encore, voici le second, donc ça c'est le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. ça résume un peu tout le 10 commandements. Vous savez, j'avais dit que les 4 premiers concernaient le rapport entre Dieu et nous. Les 6 autres, c'est le rapport entre les hommes. Là, il résume. Aime Dieu tout d'abord, et puis aime ton prochain, en résumé. Ça, c'est le résumé de tout le commandement d'après Jésus. Non seulement l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament. Ça, c'est le résumé de toute la Bible, on peut dire comme ça. Oui, Dieu est le seul Dieu unique. On ne peut pas comparer avec quoi que ce soit. On ne peut pas comparer avec les dieux d'idolâtrie. Dieu est jaloux, oui. On ne doit pas concurrencer Dieu avec quelque chose d'autre. On ne peut pas servir Dieu et l'argent non plus, aussi en même temps. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous vénérons? J'en suis sûr que vous êtes des bons chrétiens, vous ne serez jamais tombés dans une secte. Ça, je suis convaincu. Vous ne serez pas dans une idolâtrie, dans une secte, etc. Mais il y a d'autres formes de secte, d'idolâtrie, qu'on peut vénérer dans la vie courante. Je viens de mentionner, il y a l'argent, il y a des mauvaises habitudes. Si on aime quelque chose plus que Dieu, c'est une idolâtrie aussi. On peut s'examiner soi-même. Qu'est-ce que j'aime plus que Dieu? Qu'est-ce que je dois changer? Est-ce que j'aime vraiment Dieu seul? Est-ce qu'il est vraiment ma priorité? Comment peut-on aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toutes mes pensées, Dieu seul? Comment aimer Dieu? Là, il est en train de dire qu'en fait, que oui, avec toute ma volonté, mes pensées, ma force, mon libre arbitre, etc., etc. En fait, ça veut dire qu'avec tout mon être, il faudrait aimer Dieu. Pas juste avec une partie de moi. Pas juste avec un membre de... Non, c'est tout mon être qui doit aimer. Alors, certains aussi peuvent se dire, mais pourquoi Jésus a rajouté toutes mes pensées? Vous savez que l'âme qui sort... Enfin, ça, c'est moi. J'ai pas vu encore le commentaire. Mais j'ai l'impression quand même que l'âme, parce qu'après la mort, il y a l'âme qui sort, qui va auprès du Seigneur. Souvent, on lit avec l'âme, avec les pensées. Et je pense que Jésus a dû un petit peu développer ce côté âme pour dire encore que non seulement il y a l'âme, mais aussi toutes mes pensées, mes fonds, l'intérieur, le cœur, qui est aussi le fond de moi. Tout ça doit servir le Seigneur. Etc. Dans 1 Timothée 1,5, il a dit le but du commandement, c'est une charité, donc l'amour venant d'un cœur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Tous ces commandements, oui, viennent de l'amour, qui permet en tout cas de... qui permet cet amour, qui permet aussi de collaborer les uns des autres. Je continue la lecture à partir du verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu n'en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison, sur tes portes. Pour dire qu'il faut inculquer aux enfants ce commandement aussi, pas garder seulement pour soi-même, mais aussi inculquer. Alors, est-ce qu'il faut mettre en pratique littéralement tout ce qui est marqué, c'est-à-dire marqué sur vos portes? Vous savez, les Juifs, ils ont aussi marqué sur les mains, etc., etc. Non, bien sûr, c'est pas ça. Après, on peut aussi mettre des versets un peu partout dans la maison pour que les gens puissent apprendre. Vous le faites d'ailleurs ou pas? Non, pas trop. Bon, en tout cas, à la maison, moi, j'en ai plein de machins qui, dans les toilettes, quand tu sors, il y a des paroles un peu partout. Donc, nos enfants, en tout cas, ils arrivent à percevoir en tout cas des paroles qui sont dans la maison. C'est vraiment important de transmettre ce que nous avons reçu du Seigneur aux enfants. C'est important que l'école de dimanche soit maintenant présente en bas. en train de leur inculquer les commandements de Dieu. C'est important que nos jeunes soient formés aussi. Ils étaient là le samedi soir, en train d'apprendre les choses. C'est important. C'est un lieu de formation. Souvent, on dit que les enfants sont l'église de demain. Non, les enfants, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui. Il faut prendre soin de nos jeunes pour qu'ils puissent vraiment apprendre et approfondir la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut puiser nos forces dans la parole. Pourquoi je vous parle en fait cette prédication? Parce que je suis encore toujours dans le thème de s'enraciner dans la parole de Dieu. Vous savez, vous connaissez un petit peu notre devise, s'enraciner, grandir et porter du fruit. C'est ça la devise de notre église. Cette année, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur s'enraciner dans la parole de Dieu. Comment s'enraciner? En aimant davantage Dieu et en aimant bien sûr aussi notre prochain davantage. Je continue un petit peu la lecture, enfin je ne vais pas lire. Vous ferez votre lecture des 9-10 versets suivants, enfin verset 10 jusqu'au verset 19. Si je résume, ce sera ainsi. Moïse est en train de dire, à travers ces 10 versets, comment il faut vivre sur cette terre que vous allez entrer sur la terre Canaan. Tout d'abord, attention quand tout va bien. Attention quand tout va bien. Attention quand tout va mal. Deuxième chose qu'il est en train de dire. Attention à l'idolâtrie. Les trois choses. Pourquoi il a dit attention quand tout va bien? Tout simplement parce que quand tout va bien, on risque d'oublier notre Dieu. Hein? On ne pense pas forcément à Dieu. J'ai vu beaucoup de gens, suite à des complications, des conflits, des tragédies, revenir auprès de Dieu. Parfois, ça peut être aussi une bénédiction. Mais lorsque tout va bien, on risque d'oublier Dieu. Et c'est ce que Moïse est en train de dire. C'est ce que Dieu est en train de dire à travers Moïse. Attention, quand vous irez là-bas, quand vous allez vous installer et quand vous allez récolter plein de fruits, etc., etc., et que tout va bien, attention, n'oubliez pas Dieu. Et puis la deuxième chose, attention quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, on risque de douter de la fidélité de Dieu. Comme aujourd'hui, il y a la guerre partout. Et les Ukrainiens doivent se dire, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi Seigneur? Il y a autant de souffrances, de guerres, de deuil. Je ne comprends pas. On risque de se douter de cette fidélité en voyant cette injustice dans le monde. Mais le Seigneur est en train de dire, attention, quand tout va mal, restez patient, soyez patient, parce que je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Et puis, troisième chose, attention aussi à l'idolâtrie. Le plus grand danger est de l'idolâtrie. Et il dit au verset 15, « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel ton Dieu s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de dessus la terre. » Qu'est-ce qu'on aime plus que le Seigneur? J'ai aussi réfléchi. Est-ce que j'aime quelque chose plus que Dieu? J'ai réfléchi. À votre avis, j'ai trouvé ou pas? Je me suis dit, je savais que je suis vraiment un accro de tennis. Donc, est-ce que c'est le tennis, Seigneur, que j'aime plus que toi? J'ai réfléchi. Je me suis dit, non, je peux arrêter quand je veux, vraiment. Avant de venir ici, j'allais faire du foot tous les lundis soirs. Hein. Est-ce que c'est pas pour ça que le foot était mon idole? Non, pas du tout. Ça peut être un moyen pour se défouler, pour un moyen pour aussi pour mieux servir le Seigneur. Mais si vraiment vous aimez le Seigneur, est-ce que vous pensez à tout instant votre vie basée sur Dieu. Vous savez que je suis vraiment assez sportif et je suis aussi un bon, enfin bon skieur, non. J'aime skier. Hein. Quand j'étais dans l'ancienne église, je skiais chaque semaine. Donc tous les lundis, c'était mon jour de congé, donc je prenais mes paires de ski et je montais dans les montagnes. Donc je faisais à peu près 45 minutes de route. Et là, j'étais dans la forêt, j'étais dans les pistes en train de faire des petites routes tout seul. J'aime vraiment le ski. Et il y a un gars qui fait des vidéos de ski. Il s'appelle Mike. Et lui, il fait winter activity, un truc comme ça. Et c'est un très bon skieur et il laisse pas mal de vidéos sur YouTube. Et lui, dès qu'il se lève, vous savez ce qu'il fait ? Il regarde le météo. Et quand le météo est bonne, froid, il est super content. Il est vraiment heureux. Tout son planning est organisé à partir du météo. Dès qu'il se lève, voilà. Quand la météo n'est pas bonne, bah, il fait autre chose. Hein? Et en voyant un peu son planning, et puis de ce qu'il faisait, il est complètement fou de ski, lui. Et je me suis dit, nous, qui devrions aimer Dieu, est-ce que dès que je me lève, je pense à Dieu, de ce que je vais faire, de ce que je vais rencontrer, des gens que nous allons rencontrer, est-ce que je vais aussi apporter la lumière qui vient du Seigneur ou pas? Parce que je réfléchis à tout ça. Parce que ce gars-là, qui est complètement dingue de ski, il pense qu'à ça. Parce que c'est sa priorité. Et en voyant un petit peu sa vie personnelle, je me dis, mais je ne suis pas aussi dingue de Dieu, en fait. Mais je devrais. Certes, tous les matins, je médite la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est pour ça que vous avez fait tout votre devoir? Non, ce n'est pas ça du tout. Hein. C'est toute notre vie devrait être à la gloire du Seigneur. C'est ça, être ancré dans la parole. C'est pas juste écouter. Shama Israël, écoute Israël. Qui veut dire quoi? Bien sûr, il faut écouter, mais il faut aussi mettre en pratique. C'est ça, en fait. Il faut d'abord écouter, bien sûr, imprégner cette parole et mettre en pratique. C'est ça, être ancré, s'enraciner dans la parole de Dieu. Nous avons vu, à travers Deutéronome, à travers le testament de Moïse, combien il était vraiment important d'aimer mon Dieu, mon prochain. Que le Seigneur vraiment nous aide à mettre en pratique cet simple commandement, mais parfois difficile, à cause de notre maladie, à cause des contraintes de la vie réelle de tous les jours. Que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur,